Dans l'évangile selon Jean, premier chapitre, au verset 6. Et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage, de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au verset 14e, et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui et a crié, disant, c'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi, car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Et c'est ici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Et il confessa, et ne nia pas, et confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent donc, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Et il dit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Fais droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. » Et ils avaient été envoyés d'entre les pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, disant, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas. Celui qui vient après moi, duquel moi je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Ces choses arrivèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Au verset 32e, « Et Jean rendit témoignage, disant, « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. » Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là me dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Verset cinquantième, Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit et lui dit, « Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, je vous dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » On entend comme ça. On entend.
encore.
Après l'introduction que nous avons de cet évangile dans les cinq premiers versets, une introduction à nul autre comparable, une introduction concernant la personne du Fils éternel de Dieu, concernant la parole qui devait devenir chair, concernant le Verbe incarné. Après cette introduction admirable au-delà de toute expression, et nous le répétons, à nul autre comparable, nous avons Jean qui est suscité sur la scène, Jean le baptiseur. Nous avons lu au verset 6, et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il était envoyé de Dieu, celui qui était le précurseur du Seigneur Jésus, du Seigneur de gloire, du Fils éternel, se faisant chair et venant habiter au milieu de nous. Il était envoyé de Dieu. Et pourquoi, chers amis? Quel était donc le but de sa mission? Il était envoyé de Dieu, donc il avait une mission à accomplir. Et quel était le but de cette mission? Nous l'avons dès le début de notre passage, de notre lecture. Celui-ci vint pour rendre témoignage, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Et tout au long des versets que nous avons lus, du moins jusqu'au verset 34e, nous avons l'exposition de ce témoignage que Jean le baptiseur a rendu. Il était venu pour rendre témoignage, de celui qui était et qui est la lumière du monde, dira-t-il à deux reprises au cours de cet évangile. C'était donc là le but de la mission de Jean le baptiseur, pour rendre témoignage, et l'Esprit de Dieu répète, pour rendre témoignage. Est-ce que le fait que l'Esprit de Dieu répète ce but de la mission de Jean le baptiseur ne nous fait pas penser à cette autre parole que nous trouvons si souvent répétée dans l'Évangile selon Jean? En vérité, je vous dis. En vérité, le témoignage en effet qui était rendu par Jean le baptiseur était un témoignage unique, c'était le témoignage absolument vrai, rendu à l'adorable personne du Seigneur. Pour rendre témoignage de la lumière, c'était donc là le but de la mission de Jean le baptiseur. Afin que tous crussent par lui. Jean le baptiseur était venu pour annoncer la venue de celui qui allait arriver tantôt. C'était le but de sa mission. Et il importait que tous crussent par lui en celui dont il annonçait la venue, afin que tous crussent par lui. Ce soir encore, chers amis, par la parole de Dieu, il nous est parlé du Seigneur Jésus, du Fils éternel de Dieu manifesté en chair. Ce soir encore, la personne de Jésus que Dieu dont son amour infini nous a donné la personne de notre Sauveur, puissant, parfait, nous est présenté. Chers amis, Dieu nous parle. Il nous présente une fois de plus, après tant d'autres, l'adorable personne de Jésus, le Fils de son amour. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui, jusqu'à ce soir, n'a pas encore cru en lui, n'a pas encore mis sa foi en lui, en sa personne et en l'œuvre parfaite qu'il a accomplie en Golgotha? Y aurait-il ici ce soir quelqu'un, une seule âme, un jeune qui n'a jamais eu affaire personnellement avec le Seigneur, qui ne pourrait pas dire ce soir, selon le verset qui nous a été rappelé cet après-midi, qui ne pourrait pas parler du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi? Dieu vraiment est le Dieu de toute grâce. C'est un Dieu qui fait grâce pour qu'il ait patienté dans sa grâce jusqu'à ce soir. Pour vous, chère âme, qui peut-être ne le connaissez pas encore, Dieu vous parle par le moyen de sa parole, une fois encore, et ce peut être la dernière, Dieu vous présente la personne de son Fils bien-aimé, celui qui est notre unique Sauveur, Sauveur puissant et parfait. Puissiez-vous croire à l'ouïe des paroles que nous avons lues dans ce chapitre, puissiez-vous croire en lui, et ce soir, sans plus tarder, venir à lui, confessant ce que nous sommes tous par nature, des pécheurs morts dans nos fautes et dans nos péchés, et ayant absolument besoin d'un sauveur. Ce sauveur, Dieu vous le présente. Si vous croyez en lui, vous avez la vie, et la vie pour l'éternité. C'est le vœu de notre cœur que chacun, chacun des chers nombreux jeunes gens qui sont ici ce soir, chacun qui ne connaîtrait pas encore Jésus pour son sauveur personnel, c'est le vœu de notre cœur que ce soir, cette âme vienne au Seigneur et apprenne à le connaître pour son sauveur personnel. On ne badine pas avec le temps qui passe. Ce peut être la dernière fois que Dieu nous parle, que Dieu vous parle. Écoutez sa voix, venez à lui, venez au pied de la croix et recevez Jésus pour votre sauveur personnel. Jean le baptiseur était donc venu pour rendre témoignage, de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. Jean le baptiseur n'était pas la lumière. En voyant sa vie, qui était une vie somme toute parfaite, on aurait pu le considérer comme étant lui la lumière. Mais il n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière, c'était pas Jean le baptiseur, mais c'était celui qui l'annonçait, c'était le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Il n'était donc pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage de la lumière. Et au cours des âges, toute proportion gardée, en considérant le ministère de serviteur de Dieu, nous avons peut-être, dans notre jeune âge, pensé, nous aurions pu penser qu'ils étaient vraiment comme étant la lumière de Dieu. Et c'est ainsi que, au sujet du départ pour le ciel, d'un cher serviteur de Dieu de cette région, il a pu être inscrit sur la vie de faire part de son délogement, ce verset-là. Lui n'était pas la lumière. Il avait été doué, d'une façon exceptionnelle, de nombreuses générations, en tout cas de nombreux frères et sœurs, ont joui de son ministère. On aurait pu, en voyant une telle estime portée à ses serviteurs, penser qu'il était la lumière, ça aurait pu donner à croire que qu'on le considérait comme tel, et on a trouvé bon de mettre sur la vie de faire part de son délogement ces mots, lui n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage de la lumière. Nous disons cela, nous rappelons ce fait, toute proportion gardée. Quant à Jean le baptiseur. Ainsi donc, l'objet du témoignage de Jean-Baptiste, c'était la lumière. Jésus, la lumière. La lumière du monde, dira-t-il lui-même, de lui-même, à deux reprises au cours de cet évangile. Il était la lumière. Lorsque la création a eu lieu, il y eut au premier jour la lumière créée. La lumière a été créée. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Le deuxième jour, les cieux ont été créés. Le troisième jour, la terre, les mers, et également les plantes. Et ce n'est que le quatrième jour que le soleil, l'astre qui devait dominer sur le jour, a été créé. La lumière, chers amis, a été créée le premier jour, mais le soleil n'a été créé que le quatrième jour. Cela veut donc dire qu'avant la création du soleil, il y a une lumière émanant de Dieu lui-même qui a éclairé, qui a réchauffé cette terre avant que le soleil soit créé. Ainsi ont été les choses au jour de la création. Et dans un sens, chers amis, nous pouvons dire qu'il en a été de même au jour de la rédemption. Il y a eu, avant le quatrième jour, avant que la lumière du monde soit manifestée, il y a eu un premier jour, et un deuxième jour, et un troisième jour. Il y a eu ces jours, ces économies précédant la venue du Fils de Dieu ici-bas, ces économies dans lesquelles les croyants ont connu la lueur infiniment douce et la douce chaleur de la lumière, de Dieu. Il y a eu un premier jour, le jour des patriarches. Il y a eu un deuxième jour, le jour de Moïse et des conducteurs du peuple qui ont suivi. Il y a un troisième jour, le jour des prophètes. Nous avons là l'Ancien Testament. Nous avons là où la lumière de Dieu a déjà brillé. Et les croyants et les témoins de Dieu ont bénéficié d'une telle lumière, autant de sa lueur que de sa chaleur. Les saints de l'Ancien Testament avaient la vie de Dieu, et ils en ont manifesté des traits magnifiques, des traits de toute beauté. Pensons à un Enoch, pensons à un Abraham, à un Moïse, à un David, à tant d'autres. Ils avaient la vie de Dieu, et déjà sur eux, on peut dire qu'il y a eu des gerbes de la lumière de Dieu qui ont brillé, et ils ont pu se réchauffer à une telle lumière avant qu'arrive le quatrième jour où le Seigneur Jésus, la lumière, la vraie lumière, apparut dans ce monde. Et durant ce premier, et ce deuxième, et ce troisième jour, les croyants ont pu bénéficier de cette lumière qui les a éclairés, qui les a réchauffés, qui les a réjouis. Et dans un sens, en mettant en parallèle Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Jean 1, au commencement, qui à vrai dire n'est pas un commencement, puisque par l'Esprit de Dieu, nous sommes ramenés dans l'éternité passée. Au commencement, il y avait depuis toujours la parole qui était auprès de Dieu, la parole qui était Dieu, la parole qui, un jour, devint chair et habita au milieu de nous. Eh bien, c'est à une telle personne que Jean le Baptiseur devait rendre témoignage. Il rendait témoignage de la lumière, de la vraie lumière, qui est celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais les hommes ne l'ont pas reçue, ils ne l'ont pas comprise, ils ont mieux aimé les ténèbres. Terrible état que l'état de l'homme pécheur, qui préfère les ténèbres à la lumière et à la vraie lumière, Christ lui-même. Nous passons un peu plus loin, chers amis, et nous voyons de nouveau Jean rendant témoignage. Au verset 15e, Jean rend témoignage de lui. Il a crié disant, c'était celui duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. Jusqu'à maintenant, il nous a été montré que Jean le baptiseur devait rendre témoignage de la lumière. Maintenant, il est appelé à rendre témoignage à la préexistence de celui qui est la lumière, et en rendant témoignage à sa préexistence, il rend témoignage à son existence éternelle. Du point de vue de la naissance, le Seigneur Jésus venait après Jean le baptiseur, mais en tant que fils de Dieu, il est avant Jean le baptiseur. Jean le baptiseur le dit, il était avant moi. Celui, dit-il, qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. Car, et il semble que là, c'est l'auteur de l'Évangile qui reprend le cours de son enseignement, car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. Mais l'association mérite d'être soulignée. Il est donc parlé de la lumière d'abord, maintenant il nous est parlé de grâce, et nous avons reçu, pas seulement grâce sur grâce. Les croyants dans l'Ancien Testament avaient reçu grâce sur grâce, c'est incontestable, et ils ont pu louer l'Éternel à cause de ses nombreuses bontés. Mais maintenant, la plénitude a été révélée. De sa plénitude, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. Et nous comprenons que ce verset prenne place dans ce chapitre au début de cet évangile. Jésus, le Fils de Dieu, est manifesté, il paraît dans ce monde. Du moment qu'il paraît dans ce monde, la plénitude de la grâce de Dieu est manifestée, et avec l'auteur de l'évangile, nous pouvons dire, et de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. Ainsi donc, de la part de Dieu, nous avons reçu lumière et grâce. La grâce étant un des caractères de l'amour de Dieu. Comme il nous a été rappelé cet après-midi, les deux grands caractères de l'essence même de Dieu, c'est lumière et amour. Le même apôtre développe largement une telle vérité dans sa première épître. Lumière et grâce, vérité et amour, voilà ce que nous avons trouvé en plénitude dans la personne de Christ. qu'il est ajouté, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous avons très souvent l'association de la bonté et de la vérité. La bonté est toujours, nous ne pensons pas nous tromper en disant toujours, mentionner d'abord la bonté et la vérité. Et ici, il est parlé de la grâce d'un Dieu qui se donne à connaître comme étant le grand Dieu sauveur à l'égard du pécheur. Parce que, qu'il nous soit permis de le dire aujourd'hui encore, c'est ce que nous sommes tous, par nature, des pécheurs. Eh bien, Dieu use de grâce envers nous. La grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce d'abord, la grâce qui attire, la grâce qui met en confiance, la grâce qui permet alors que nous puissions recevoir de la part de Dieu son verdict à l'égard de l'homme pécheur, et c'est la vérité. La grâce d'abord qui attire, et ensuite la vérité, Dieu nous fait entendre la vérité à l'égard de ce que nous sommes en tant qu'enfants d'Adam. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si l'on lisait le texte original, nous verrions que la grâce et la vérité sont tellement unies que le verbe est au singulier. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Nous répétons, Dieu nous parle ce soir par sa parole. Il nous présente une fois encore la personne de son Fils bien-aimé. C'est par lui, en effet, que la lumière a été pleinement manifestée, que la plénitude de la grâce de Dieu a été donnée à connaître. Au verset 19e, Jean continue son témoignage. Et c'est ici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander s'il était le Christ. Et Jean confessa, il ne nia pas, il confessa, je ne le suis pas, je ne suis pas le Christ. Alors, es-tu Élie ? Élie que le prophète Malachie a annoncé au chapitre 3 de son livre. Non, je ne suis pas Élie. Alors es-tu le prophète? Ce prophète dont Moïse avait déjà parlé au chapitre 18 du livre du Deutéronome, quand il avait dit « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. » En Deutéronome 8, en Deutéronome 15, il est seulement dit, Deutéronome 18 plutôt, au verset 15, il est seulement dit que, et il arrivera, que si une âme ne l'écoute pas, ce prophète, voici, je le lui redemanderai. Il est très frappant de voir la citation que l'apôtre Pierre fait de ce passage au chapitre 3 du livre des Actes. Il cite d'abord textuellement le passage du Deutéronome, l'annonce de ce prophète qui viendrait, Jésus lui-même, et ce prophète est venu dans la personne de Jésus et il n'a pas été reçu. Alors l'apôtre Pierre ajoute cette parole, ou plutôt donne une citation un peu différente, c'est-à-dire plus sévère que celle du Deutéronome, il arrivera que cette âme qui ne l'écoutera pas, je l'exterminerai. Elle sera exterminée. C'est grave, chers amis, de mépriser la grâce. Le peuple d'Israël avait méprisé Jésus. Il avait méprisé la grâce de Dieu dans la personne de Jésus. La plénitude de cette grâce, c'était grave. Lui qui était le prophète annoncé par Moïse au livre du Deutéronome. Il arrivera que cette âme qui ne voudra pas l'écouter, je l'exterminerai. Eh bien, Jean le baptiseur n'était pas non plus ce prophète. Il n'était pas le Christ, il n'était pas Élie, il n'était pas le prophète. Quoi donc ? Qui es-tu ? Que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Eh bien, je suis la voix. Remarquons l'humilité de Jean le Baptiseur, combien il s'efface. Il est simplement une voix. Et encore, dans le désert, il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Esaïe le prophète. » Il était une voix, rien d'autre. La voix qui criait dans le désert. Le peuple d'Israël, en effet, n'avait été pour Jean le Baptiseur rien d'autre qu'un désert. Moralement parlant, un désert. Il invitait à la repentance, on n'écoutait pas, on ne le recevait pas. Véritablement, il parlait dans le désert. Et que disait-il? Faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Esaïe le prophète. Jean le Baptiseur avait été suscité pour préparer la venue du Seigneur Jésus, il en était le précurseur, et pour inviter les âmes, les enfants de son peuple, à recevoir le Seigneur, à faire droit le chemin du Seigneur. Il les invitait à se préparer pour recevoir le Seigneur. Or, nous savons comment le peuple juif a reçu le Seigneur. Et Jean d'ajouter, voici, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, duquel moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. Si, au début de notre chapitre, nous avons vu un témoignage rendu à la lumière, ensuite un témoignage rendu à l'existence éternelle de celui dont il était le précurseur. Ici, nous avons un témoignage rendu à sa dignité absolue. Et Jean le Baptiseur, dans l'humilité qu'il caractérisait, peut dire « Moi, je ne suis pas digne, même en baissant, de délier la courroie de sa sandale. » Et Jean le Baptiseur, notons-le, arrivait à la fin de sa carrière en disant cela. C'est l'apôtre Paul qui nous l'apprend au chapitre 13 du livre des Actes, dans le discours qu'il fait, discours absolument remarquable, à Antioche de Pisidie, quand il dit ceci, comme Jean achevait sa course, voici il dit, il annonce la venue du Seigneur, et je ne suis pas digne, voilà ce que Jean a dit, en achevant sa course, même en baissant, de délier la courroie de sa sandale. Jean le Baptiseur avait conscience de la mission, de la hauteur de la mission qui lui était confiée. Il en avait conscience, et il savait qu'il n'était pas digne de servir Dieu, qu'il n'était pas digne d'être le précurseur d'une telle personne que Jésus. Et il y a là un enseignement pour nous-mêmes, chers amis. Nous avons besoin de nous souvenir que c'est un grand honneur que Dieu nous fait de bien vouloir nous employer à son service. C'est un grand honneur parce que nous ne sommes pas dignes, même en nous baissant, de délier la courroie de la sandale de notre Seigneur. Nous n'en sommes pas dignes. C'est un grand honneur que le Seigneur nous fait de bien vouloir se servir de nous pour son service. C'est donc un témoignage rendu à cette dignité absolue du Seigneur, et Jean le Baptiseur en avait parfaitement conscience. Au verset 32e, nous continuons encore dans la mention de ce témoignage de Jean le Baptiseur. Et Jean rendit témoignage disant, j'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Témoignage rendu à l'absolue perfection du Seigneur. Le Saint-Esprit descend sur lui tel qu'une colombe. Le rapprochement avec le Saint-Esprit descendant sur les croyants réunis au jour de la Pentecôte est bien connu de chacun. Quand le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte est descendu sur les croyants dans le lieu où ils étaient assis. Il est dit que le Saint-Esprit descendit sous forme de langue de feu. Il n'est pas parlé d'une colombe, il est parlé du feu, parce que dans le croyant, quel qu'il soit, il y a toujours quelque chose à juger, à purifier, à consumer. Il y a là des langues de feu. Quand il s'agit du Seigneur, il n'est pas question de feu, il est question d'une colombe. Et j'ai vu descendre le Saint-Esprit comme une colombe sur lui. Le Seigneur Jésus a reçu le Saint-Esprit en vertu de sa propre perfection. Nous-mêmes, en tant que croyants, nous recevons le Saint-Esprit en vertu de l'œuvre de la croix par laquelle nous avons été sauvés et rachetés. C'est à cette seule condition que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit sur le pied de l'œuvre expiatoire de la croix. Le Seigneur Jésus, lui, l'a reçu le Saint-Esprit en vertu de sa propre perfection. Les apôtres ont rendu témoignage, un témoignage unanime à la perfection de Jésus. Quand un apôtre Paul peut dire « Celui qui n'a pas connu le péché, il a été fait péché à notre place. » Un apôtre Pierre peut dire « Celui qui n'a pas commis de péché. » Un apôtre Jean peut dire « En lui, il n'y a pas de péché. » Est-ce que ces témoignages ne nous frappent pas, chers amis? Est-ce que ces témoignages d'une admirable et divine simplicité ne rendent pas évidente à nos yeux la perfection de notre Seigneur et de notre Sauveur? Eh bien, en vertu de sa propre perfection, il a reçu ainsi le Saint-Esprit qui est venu sur lui comme une colombe. Disons un tout petit mot en rapport avec ce chapitre 2 du livre des Actes. Le Saint-Esprit est descendu sur les croyants rassemblés dans la maison, là où ils étaient, et l'Esprit de Dieu ajoute où ils étaient assis. Où ils étaient assis. Cette expression nous donne à connaître quelque chose de la tranquillité, de la paix, du calme qui caractérisait ces croyants. On voit que il n'y a absolument rien de ces émotions, de cette sentimentalité, de ces transes dont aujourd'hui on voudrait parler quand il s'agit de la réception du Saint-Esprit. Acte 2 nous parle de toute autre chose, nous parle de croyants qui sont paisiblement assis, et là, où ils sont assis, le Saint-Esprit descend. On ne voit absolument pas de manifestation sentimentale, extatique chez ces croyants, des transes par exemple, au moment où ils reçoivent le Saint-Esprit. Une telle pensée, que l'on croit parfois obligatoire, est absolument étrangère à l'enseignement divin. Le Saint-Esprit est donc descendu au jour de la Pentecôte, très paisiblement, remplissant, les croyants de ce jour-là ont été remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous le répétons, est descendu comme des langues de feu sur la personne du Seigneur. Il est descendu tel qu'une colombe. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Et ce baptême, en effet, a eu lieu au jour de la Pentecôte. Et enfin, dernière mention du témoignage rendu par Jean le baptiseur, et moi j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, verset 34, que celui-ci est le Fils de Dieu. Admirable conclusion du témoignage rendu par ce serviteur envoyé de Dieu pour rendre témoignage de la lumière. Si nous lisons le texte que nous avons ici, et de même, si nous lisons le texte original, nous trouvons à cette reprise la mention du témoignage rendu par Jean le baptiseur. Au verset 7e, pour rendre témoignage de la lumière au verset 8, Nous avons là trois fois la mention du témoignage. Et puis au verset 15e, et puis au verset 19, au verset 32e et au verset 34e, nous avons à sept reprises, nous avons un septuple témoignage rendu par Jean le baptiseur à l'adorable personne du Seigneur Jésus. Il est le Fils de Dieu. Celui dont il nous a parlé jusqu'à maintenant comme étant la lumière, comme étant celui qui existe depuis toujours, d'éternité en éternité, il est Dieu. Celui auquel, à la dignité absolue duquel il rend témoignage, à la perfection absolue duquel il rend témoignage, celui-là n'est personne d'autre que le Fils de Dieu, Jésus, qui un jour a été vu sur la terre, au milieu des hommes, la parole devint chair et habita au milieu de nous. Nous avons lu encore les derniers versets de ce chapitre, et sans vouloir prolonger outre mesure, simplement pour mentionner, à côté de sa gloire de Fils de Dieu, ces deux autres gloires très importantes qui seront mentionnées dans la suite de l'Évangile, c'est-à-dire, d'après le témoignage de Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, et enfin, ce que le Seigneur Jésus dit lui-même, parlant des anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Or, si nous lisons les chapitres 11 et 12 de cet évangile, nous voyons la gloire, pour ainsi dire, cette triple gloire fondamentale manifestée au tombeau de Lazare, sa gloire de Fils de Dieu. Au chapitre 12, tandis qu'il entre à Jérusalem, c'est le roi d'Israël qui entre. En fait, il n'entrait pas comme roi. Nous avons là qu'un accomplissement partiel de la prophétie de Zacharie. Cette prophétie s'accomplira en plein bientôt quand le Seigneur entrera dans son règne. Et enfin, dans ce même chapitre 12, une fois que ces quelques Grecs désireux de voir Jésus sont entrés en contact avec lui, le Seigneur Jésus alors de dire « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié » et il se compare à cette image touchante du grain de blé qui tombe en terre, meurt et porte beaucoup de fruits. S'il ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ainsi notre Seigneur est allé jusque-là, divin grain de blé. Il est tombé en terre, il est descendu dans la mort, et à la suite de sa mort et de sa résurrection, en vertu de sa mort et de sa résurrection, il a porté beaucoup de fruits. Bientôt, il le verra, le fruit du travail de son âme, et en sera pleinement satisfait. Que le Seigneur permette et veuille que nos cœurs restent attachés à ce témoignage rendu dans une si admirable simplicité par Jean le baptiseur. À cette occasion, le témoignage de Jean le baptiseur est mentionné. C'était un témoignage complet, il devait l'être, témoignage rendu à l'infiniment glorieuse personne du Seigneur Jésus. Que ce témoignage reste gravé sur nos cœurs, que nous y revenions, étant ainsi amenés à penser toujours plus à lui-même et à nous nourrir de lui-même. Il est notre Sauveur, nous le répétons, il est notre Seigneur, il est celui que bientôt nous verrons face à face tel qu'il est.